Bonjour à tous et bienvenue dans les Créateurs d'avenir, l'émission des jeunes qui entreprennent leur vie. Alors, vous le savez, chaque semaine, on vous présente le parcours de jeunes entrepreneurs, on vous donne quelques clés pour créer ou développer votre entreprise, et puis on revient sur le parcours d'un bâtisseur d'empire. Et cette semaine, c'est Olivier Berthélémy que nous recevrons en première partie. Il vient nous parler de Dinox, un laboratoire pharmaceutique destiné aux jeunes actifs, qui lance en ce moment une pilule anti-gueule de bois. Ensuite, avec Guillaume Artus, on explorera les sociétés de capitaux et puis on parlera aussi un petit peu de marketing. Et puis enfin, pour conclure, nous reviendrons sur la vie de Zino Davidoff, le fondateur de la célèbre marque de cigares Davidoff. Alors les créateurs d'avenir, saison 1, épisode 3, ça commence maintenant. Bon, je le disais en sommaire, on est cette semaine avec Olivier Berthélémy, créateur de Dinox, le laboratoire santé positionné jeunes actifs, c'est ça?
Exactement.
Bon, alors je l'ai devant les yeux. Le produit pour l'instant c'est After Effect, un produit de lutte lendemain difficile, donc contre la gueule de bois. Avant de voir ça, on va peut-être parler un petit peu de votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à lancer une boîte pharmaceutique alors que ça a coupé.
Oui, bah, mon parcours, moi je suis parti, moi j'étais parti au début de mes études. Ce qui m'intéressait, c'était la recherche pharmaceutique. Donc j'ai commencé mes études de pharmacie. Au cours de mes études, je me suis un peu spécialisé en R&D sur la chimie. Donc j'ai rejoint par un cursus un peu particulier une école d'ingénieurs chimie Paris que j'ai fait en parallèle de mes dernières années de pharmacie. Quand j'étais là-bas, j'ai monté une petite société d'enseignement et de formation au concours de pharmacie. Ça m'a beaucoup plu. Ça s'est arrêté quand j'ai revendu un concurrent. Je me suis retrouvé sans projet et ça m'a manqué. J'ai compris que c'était ça qui me plaisait, l'entrepreneuriat. Et donc j'ai rejoint juste après mes études, j'ai rejoint le master HEC Entrepreneur, qui a vraiment confirmé ma volonté d'entreprendre. Et c'est à la sortie du master que j'ai créé Dinox.
D'accord, donc à la sortie du master avec quelques associés quand même.
Absolument, avec quelques associés, bah je me suis très rapidement entouré de d'autres professionnels de santé. Donc on est deux médecins, deux pharmaciens et un professeur à avoir monté Dinox. Voilà, ils m'ont rejoint très tôt. Ils ont beaucoup adhéré au concept du produit, à l'opportunité qu'il représentait, autant en termes de marché qu'en termes d'impact sur la santé et sur le bien-être de notre cible, les jeunes actifs. Donc on est positionné, comme vous le disiez, sur les jeunes actifs. Donc c'est une cible voilà, on va les appeler on les appelle de temps en temps les digital natives, une cible qui a été un peu oubliée dans l'environnement pharmaceutique, qui n'est pas du tout adressée. Et voilà, c'est pour eux qu'on a développé After Effect, et c'est pour eux qu'on souhaite développer d'autres produits.
D'accord. Donc la génération Y, c'est ça?
La génération Y,
C'est
exactement.
ça. Et donc vous les avez rencontrés comment, ces pharmaciens et ces médecins qui vous ont rejoints?
Alors j'ai rencontré, ça a été beaucoup de réseaux. Il y en a que j'avais rencontrés, avec qui j'avais travaillé au cours de mes stages. D'autres que j'ai rencontrés à des présentations que je faisais du produit et du projet. Et d'autres que j'ai rencontrés par réseau.
D'accord, la société est créée en 2009. Au début, elle est incubée à HEC.
Ouais.
Et donc après, vous passez sur des bureaux à Orsay, là, c'est ça?
Ouais,
On y est?
exactement. Ouais. En fait, Dinox a le privilège d'être la première société à être co-incubée, incubateur HEC, Incub Alliance. C'est un peu particulier parce que c'est vrai que le produit avait le produit a une forte connotation communication et service qui est assez caractéristique de l'incubateur HEC, qui m'a très très bien accompagné sur ces aspects-là. Mais a également une forte composante technologique. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Incub Alliance à Orsay. Quelques mois après mon arrivée à l'incubateur HEC.
Et le premier projet donc de cette entreprise, c'est donc After Effect, la pilule contre la gueule de bois, c'est ça?
Ouais.
Donc bah, ça vient d'où cette idée et pourquoi choisir en premier de lancer ça?
Alors l'idée, elle est venue vraiment de deux constats. Moi, j'avais travaillé en pharmacie pendant toutes mes études. Le constat que je me suis fait très rapidement, c'est qu'il n'existait aucun produit contre la gueule de bois. Il n'y a rien en pharmacie actuellement qui était, enfin, jusqu'à récemment, qui était proposé pour les personnes qui sont sujettes à ce problème-là, alors que c'est un trouble qui concerne quand même énormément de personnes. Le deuxième levier qui a motivé le lancement de la société, la création de la société, ça a été la possibilité de développer un produit efficace. Très rapidement, moi, on a pu identifier dans la littérature, que ce soit en termes d'actifs qui avaient déjà été testés, qu'en termes de mécanismes à l'origine de la gueule de bois, qu'il était possible de faire quelque chose d'efficace. Et là, donc depuis After Effects, peut se targuer d'être vraiment le premier produit à avoir mis en évidence une réelle efficacité contre la gueule de bois.
D'accord, donc tout ce qu'on peut voir marketé anti-gueule de bois aux caisses des grandes surfaces ou des petites épiceries, c'est plus de l'escroquerie qu'autre chose, quoi.
Alors on n'en voit pas beaucoup, hein. Il y en a très très peu qui vont être explicitement sur la problématique de la gueule de bois. Je pense que vous faites allusion à des produits qui sont présentés comme abaissant le taux d'alcoolémie. C'est un positionnement qui est très différent, c'est une promesse qui est très différente. On n'est pas du tout sur ce positionnement-là. After Effect n'a pas d'effet sur l'alcoolémie. Si on réduisait le taux d'alcoolémie, je pense qu'on irait d'ailleurs sur un marché prioritaire qui est celui de l'hôpital, et pas celui du grand public. Mais voilà, c'est pas une des propriétés d'After Effect.
D'accord, c'est donc vraiment un produit pour le confort.
C'est un produit pour le confort et le bien-être du lendemain.
D'accord.
C'est vraiment sa composante principale. En fait, After Effect vient recharger l'organisme en un ensemble de nutriments qui sont dégradés par les boissons alcoolisées. Et on perçoit l'efficacité d'After Effect le lendemain. Voilà. En aucun cas, After Effect permet de prendre le volant. C'est pas du tout... Voilà,
bon. Ça a dû être colossal comme recherche, non?
Ben, ça nous a pris un an et demi. Ça a pris un an et demi. Ça a pris vraiment... Là, le produit commence à être commercialisé depuis le mois d'octobre. D'août à octobre, on a travaillé sur la conception et sur les tests sur le produit.
D'accord. Donc, sachant que c'est un produit anti-gueule de bois, on a quand même un petit peu parlé de ce que c'est et pourquoi ça marche. Surtout que, bon, on a quand même pas mal d'auditeurs en école de commerce qui sont donc un peu sensibilisés au problème. Pour beaucoup. Alors pourquoi alors qu'est-ce que font? J'ai vu que vous avez fait une étude sur la gueule de bois auprès de beaucoup de personnes. Alors qu'est-ce que font les gens et pourquoi ça marche pas ou même pourquoi c'est nocif?
Alors oui, c'est assez amusant. En fait, c'est vraiment très très rigolo. Ouais. Moi, j'étais le premier à rigoler parfois des remèdes qu'on entend contre la gueule de bois. En fait, c'est pour obtenir des informations sur ce que prenaient les gens contre la gueule de bois. Au tout début, et c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille, on a créé un groupe sur Facebook que je vous invite à rejoindre, qui s'appelle Pour la recherche contre la gueule de bois. On a eu très rapidement plus de 10 000 membres qui sont inscrits. Et en fait, les membres mettaient leurs remèdes, tous plus immondes les uns que les autres. Donc vous avez, je peux citer comme ça, la soupe de tripe au réveil, le jus des cornichons. Vous enlevez les cornichons, vous buvez le jus des cornichons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y a un remède, alors ça, qui vient de Russie, qui consiste à se fouetter le dos avec des branches de bouleau. Très spécifique, c'est une branche de boulot. Voilà, donc tout un tas de... Alors ça, c'est plus anecdotique qu'autre chose. On a lancé une étude plus large avec un institut de sondage, et on s'est rendu compte qu'il y avait un réel problème. Vous avez en fait une personne sur cinq qui, au lendemain d'une consommation d'alcool, va reconsommer, reboire de l'alcool pour se soulager. Et vraiment l'objectif de soulager de la gueule de bois, ce qui constitue un très très fort comportement à risque. Vous avez également une personne sur quatre à peu près qui va s'automédiquer contre la gueule de bois, c'est-à-dire qui va piocher dans son armoire à pharmacie et qui va prendre des produits. Et il se trouve que dans 30% des cas, les produits qui sont utilisés sont dangereux en association avec l'alcool.
Tout ce que les gens prennent en fait contre la gueule de bois en automédication, c'est tout ce qui est antidouleur, tout ça, je pense, non?
Absolument, oui. Ouais. Antidouleur, anti-inflammatoire principalement. Ouais. Donc c'est toujours dans tous les cas des produits chimiques qui ne sont pas indiqués contre la gueule de bois. On ne trouvera jamais sur une notice de médicaments, et c'est normal, la gueule de bois n'est pas une maladie, vous ne retrouverez pas gueule de bois. Mais surtout, voilà, notamment sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous avez une association qui est potentiellement dangereuse avec l'alcool.
D'accord. Et donc, comment ça marche si donc c'est pas antidouleur ou anti-inflammatoire? Comment ça m'aide à me sentir mieux le lendemain d'une consommation d'alcool alors?
Alors, ça, on vient recharger l'organisme en amont. Donc, on prend After Effects. On en prend 3 capsules avant la soirée, 2 capsules avant de se coucher, donc avant que la gueule de bois apparaisse. La gueule de bois commence à apparaître quand l'alcoolémie diminue, elle atteint son maximum quand l'alcoolémie est nulle. Typiquement, ça va être le matin. Donc le produit vient recharger l'organisme dans cet ensemble de nutriments qui sont touchés par les boissons alcoolisées. Dans les boissons alcoolisées, il y a 2 composants qui sont à l'origine de la gueule de bois. Vous avez l'éthanol, qui est l'alcool, Et vous avez les congénères, qui sont des substances qui sont ajoutées pendant les processus de fabrication. Et éthanol et congénères vont dégrader un ensemble de substances dans l'organisme. Et ces substances vont, enfin le fait que ces substances soient dégradées, sont à l'origine de la gueule de bois.
D'accord, donc oui, je vois, c'est l'huile de graines de bourrache, des vitamines, du magnésium, etc. Donc c'est tout ça qui est détruit, en quelque sorte, enfin réduit par l'alcool.
On va voir ça comme ça, on ne va pas rentrer dans les détails sur chaque... mais voilà, on est globalement là-dessus. Ouais.
D'accord, donc c'est vendu en pharmacie.
Vendu en pharmacie, oui.
Sans ordonnance, je suppose.
Sans ordonnance.
Mais ça doit être quand même super dur de rentrer en pharmacie...
En pharmacie, pas facile. C'est pas facile. Donc, on en était assez conscient au début du projet. C'est pas un réseau qui est simple, en fait. C'est très structurel au réseau. Hein. Il y a 23 000 pharmacies en France et 23 000 indépendants. Il n'y a pas de centrale d'achat qui permette une distribution massive rapide. Donc, il faut aller voir chaque pharmacien et lui proposer le produit. Donc, on a de la chance par rapport à sa composition et par rapport à son indication, le produit plaît énormément aux pharmaciens. Et là, on commence depuis très récemment à travailler avec une force de vente qui nous implante très très bien le produit.
Vous commencez à être bien distribué en pharmacie. Je suppose qu'il y a une autre difficulté, c'est que ça doit être interdit à vendre sur Internet, non ?
Non, on pourrait le vendre sur Internet. On pourrait le vendre sur Internet. Il y a quelques parapharmacies en ligne qui le vendent, donc on peut le retrouver sur Internet. Mais c'est pas du tout notre... Nous, on s'en occupe pas du tout. C'est pas notre réseau.
D'accord, donc c'était vraiment un manque. Il n'y avait absolument rien à voir en pharmacie.
Absolument rien. Il y a eu quelques produits qui ont été plus des concepts marketing que des vrais produits. Nous, on est surtout scientifique dans l'entreprise. On vient un peu en rupture avec ce qui avait été tenté précédemment ou ce qui a été déjà tenté dans d'autres pays également, avec beaucoup, 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 beaucoup plus de succès dans les autres pays qu'en France jusqu'à After Effects.
Est-ce qu'en France, je suppose qu'il y a des difficultés aussi au niveau législatif, tout ça, c'est quand même un sujet assez tabou, l'alcool, l'alcoolémie en France
Alors c'est très intéressant. Il y a deux points dans votre question. Il y a le côté réglementaire où là on était très très bien encadré. On s'est entouré d'experts, hein, chacun son métier, on sait développer des produits. Il y a des experts réglementaires qui sont là pour les rendre légaux. Mais il y a le côté tabou qui est un vrai obstacle. Il y a une vraie barrière psychologique sur la gueule de bois, sur l'alcool en général. Hein, de toute façon, je pense que c'est pas spécifique à la France. On a une vraie... c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet sur lequel les gens aiment bien s'épancher. C'est pas évident et il y a beaucoup, 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 du fait qu'on en parle peu, beaucoup d'idées reçues, beaucoup de préjugés sur la gueule de bois.
Donc comment vous le communiquez dessus si c'est un sujet plus ou moins tabou?
Alors nous, le positionnement, c'est d'informer. C'est clairement de... Il y a un gros travail à faire pour informer le consommateur, informer le pharmacien et l'éduquer sur la question de la gueule de bois. Voilà, c'est pas une fatalité la gueule de bois, ça c'est un point qui est assez, qu'il faut faire passer aux gens, c'est que c'est pas une fatalité, on n'est pas dans la, c'est pas forcément lié à une consommation excessive. Hein. Il y a beaucoup de clients qui prennent After Effect dès qu'ils vont boire deux verres de vin, notamment du vin blanc, hein, qui donne un peu plus mal, qui donne un peu plus la gueule de bois que les autres vins. Donc on communique beaucoup sur la gueule de bois. Le produit, notre meilleur argument sur le produit, on n'a pas tellement à le vendre, c'est qu'il fonctionne. On a fait un test chez 103 personnes qui a mis en évidence une très très forte satisfaction des utilisateurs. Donc nous, notre plus grosse problématique, c'est vraiment la communication autour de la gueule de bois.
Parce que vous disiez tout à l'heure là, sur le vin blanc qui donne plus de problèmes que le vin rouge, etc. Alors là, on va peut-être détruire une autre légende urbaine. On entend toujours parler de tels alcools qui font mal le lendemain, que les mélanges font mal le lendemain. Alors comment ça marche tout ça, tous les alcools? Pourquoi les alcools, deux alcools, je ne sais pas, à 20 degrés, font un effet différent?
Alors, il y a eu des études publiées, hein, scientifiques, qui sont très très rigolotes, puisqu'on voit la différence entre l'intensité de la gueule de bois en fonction des alcools. En fait, ce qui va jouer sur la gueule de bois, ça va être la teneur en congénère de l'alcool. C'est très simple, hein. Dans les alcools avec les alcools forts, whisky, vodka, choses comme ça, quand l'alcool va être coloré, typiquement du whisky par rapport à de la vodka, vous allez plus facilement déclencher une gueule de bois, et une gueule de bois qui va être plus forte qu'avec un alcool blanc. C'est simple, les colorants qui sont ajoutés dans le whisky génèrent une gueule de bois. Sur le vin blanc est beaucoup plus riche en conservateurs, notamment en sulfite, que le vin rouge. Et le vin blanc va donner plus la gueule de bois que le vin rouge. Voilà. Après, sur la question des mélanges, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues qui circulent dessus. Les mélanges, a priori, vont jouer sur une seule caractéristique, c'est les problèmes digestifs. Le fait de mélanger 4 alcools avec 5 sodas différents. Ça fait un peu un micmac dans l'estomac, mais ça va pas jouer sur la gueule de bois. Si vous prenez des alcools riches en congénères, que ce soit en mélange ou pas, vous aurez plus facilement la gueule de bois. Si vous prenez des alcools pauvres en congénères, même si vous les mélangez, voilà, vous aurez moins la gueule de bois.
D'accord. Pour ce que j'intéresse, je crois que j'ai vu sur votre site, il y a justement toute une partie sur où tout est expliqué sur pourquoi il faut pas faire ça.
Ouais.
Pourquoi il ne faut pas reconsommer d'alcool le lendemain, etc.
Alors c'est même plus qu'une partie, parce que c'est un site entièrement dédié à la gueule de bois qui s'appelle gueuledebois.info, qui est le site à l'échelle mondiale qui est le plus riche d'informations sur la gueule de bois. Donc nous on y a vulgarisé tous nos dossiers scientifiques sur la gueule de bois de manière très transparente, voilà, avec que des informations. Voilà, on a été très pragmatique, hein. C'est que des informations extraites de publications scientifiques ou de données vraiment fiables.
D'accord. Bah on va finir notre partie sur le produit avec un élément important, le prix. Ça vaut combien aujourd'hui une boîte d'After Effects?
Alors là, c'est le produit est vendu à 12 euros en pharmacie pour 3 utilisations.
D'accord. Donc ça fait 4 euros,
4 euros
enfin,
l'utilisation.
moins cher qu'un verre au bar.
Moins cher qu'un verre au bar. Ouais. La moitié d'une entrée en boîte.
D'accord. Bon, on va aborder un petit peu les perspectives maintenant de Dinox. Alors, c'est quoi le but sur les prochaines années, enfin, les prochains mois, les prochaines années?
Alors là, le but actuel, là, le produit est distribué dans 150 pharmacies, en France, Guadeloupe, Martinique. L'objectif, c'est de. Là, on commence tout juste à travailler avec le distributeur. Donc, c'est de monter en puissance sur la distribution, d'avoir une couverture nationale rapide. C'est vraiment la priorité de rendre le produit disponible, de communiquer. Le lancement du produit n'a pas encore eu lieu. On envisage ce lancement pour le mois de mars. Et en parallèle de ça, c'est très clairement l'objectif, c'est d'aller à l'international dès que possible. Donc là,
D'accord.
l'objectif pour l'année 2011, c'est d'atteindre les 2000 pharmacies, d'avoir 2000 pharmacies qui ont référencé le produit, et d'avoir eu 15% de notre chiffre d'affaires à l'étranger.
Et donc après, une fois qu'il sera numéro 1 sur la catégorie, enfin sur la catégorie, il l'est déjà vu qu'il n'y a pas
Il l'est
de
déjà, c'est
concurrence pour le moment. Enfin, une fois que voilà, il sera bien mature, bien développé. C'est quoi comme projet dans les tuyaux? C'est toujours sur le bien-être des jeunes actifs, c'est
Alors,
ça?
on travaille sur là on travaille actuellement sur quatre nouveaux produits, mais on communique pas du tout
Oui, bien entendu.
sur le développement.
Bon, donc on va aborder un petit peu la dernière partie de cette émission. Maintenant qu'on a bien fait le tour de la société, ben on va voir un petit peu l'aspect plus entrepreneurial des choses. Alors, déjà comme pas mal d'autres invités, vous avez gagné des prix. Je pense notamment à Petit Poucet que j'ai vu, c'est ça?
Oui, oui, donc effectivement, on a été lauréat du concours Petit Poucet. Ça a été très important. On a également été lauréat donc, de l'incubateur HEC et d'Incuballiance. Ça a beaucoup aidé au début parce que c'est vraiment important quand on est une jeune entreprise et qu'on n'a pas forcément de track record. C'est important d'être crédible auprès des différents interlocuteurs. Ça apporte vraiment du crédit à l'entreprise. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une fin en soi, ces concours. Il vaut mieux se concentrer sur les activités de l'entreprise qui sont de développer des produits ou des services de bonne qualité et les commercialiser et les vendre plutôt que de passer trop de temps sur les concours. C'est une bonne chose, ça donne de la visibilité, mais à très petite dose.
Deux petites questions un petit peu rituelles. Ça a été quoi le meilleur et le pire moment de l'aventure alors?
Le pire moment de l'aventure, Je commençais par le pire pour finir sur une bonne touche. Le pire moment de l'aventure, c'est ce qui est très très dur. À l'origine du projet, donc moi j'étais tout seul, je travaillais chez moi. Le pire moment, c'est quand même de se faire claquer la porte par un fournisseur. Et quand arriver vers quelqu'un et lui dire mais j'aimerais bien être votre client et que la personne vous dise non, vous ne m'intéressez pas, c'est dur. C'est dur.
D'accord.
Ça a été vraiment le. Ça a été vraiment des. Ça a été vraiment voilà, quelque chose de pas évident à vivre, mais bon, faut pas se démoraliser, c'est classique sur il y a encore je pense une marge de progression sur la conception de l'entrepreneuriat en France et sur la création d'entreprises, et pas mal de sociétés sont pas du tout solidaires de ce genre de choses, sans qu'on leur demande forcément des tarifs particuliers, il n'y a pas de raison hein. Voilà, le manque de confiance qu'il peut y avoir encore en l'entrepreneuriat et enfin voilà, il y a encore des choses à faire. Ça, c'est quand même assez dur à vivre. Hein. Dire à quelqu'un, je veux vous donner de l'argent pour que vous me vendiez votre service, et que la personne vous dise non, c'est très vexant.
Clairement. Et le meilleur, alors ?
Et le meilleur, qu'est-ce que ça a été, le meilleur ? Le meilleur, ça a été le résultat de la dernière étude donc, qu'on a réalisée chez 103 personnes, avec des résultats vraiment spectaculaires sur la gueule de bois. Ça a été vraiment le meilleur, je pense, le meilleur moment... Qui a eu depuis le début. Même les personnes qui avaient réalisé l'étude, donc le laboratoire indépendant qui avait réalisé l'étude, étaient assez abasourdis de la qualité des réponses des participants.
D'accord.
C'était une très grosse joie. Je pense que fondamentalement, pour le cœur d'une entreprise, c'est quand même ce qu'elle fait. Avoir un bon produit, c'est la base de toute chose. Après, le reste, c'est un peu plus philosophique.
Voilà, donc on imagine déjà que si c'était à refaire, bah, vous le referiez sans problème.
Ouais, sans hésitation.
Sans hésitation. Et pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, quel conseil vous leur donneriez ?
Pour les étudiants, moi j'étais vraiment, vraiment posé la question. Ça avait été vraiment une grosse réflexion de se dire j'avais le choix entre rejoindre un groupe pharmaceutique ou créer Dinox. C'est pas une décision. Il faut beaucoup y réfléchir. Mais le meilleur des choix est, je pense, de partir sur la création d'entreprise, notamment quand on est étudiant ou qu'on est jeune diplômé. Pour la simple et bonne raison que si c'est quelque chose qui vous intéresse, l'entrepreneuriat, ça vous intéressera toute votre vie. Vous aurez envie de créer toute votre vie. Le problème, c'est que quand vous aurez 35-40 ans, vous commencerez à être un peu blasé par votre métier, puisque c'est le cas quand même de beaucoup de personnes. Vous aurez quand même plus de difficultés à vous mettre en risque avec votre famille, avec vos crédits éventuellement. Voilà, c'est beaucoup plus facile quand on est jeune diplômé. Au pire, ça permet d'accumuler une expérience qui est très rare en France et qui a extrêmement, extrêmement, extrêmement de valeur. Donc pour moi, il n'y a pas à hésiter. Il faut réfléchir, mais voilà, il doit y avoir une vraie démarche. Il faut quand même y penser. Il faut y penser très sérieusement. Mais voilà, il n'y a pas forcément grand-chose à perdre, mais il y a énormément à y gagner.
Exactement. Donc voilà, beaucoup à gagner, et puis en plus c'est quand même un accomplissement énorme et du plaisir tous les jours, quoi.
Je pense que c'est ça le mieux, c'est de se dire d'aller travailler, d'aller le matin avec grand plaisir au travail. Il y a des moments qui sont pas toujours très faciles, mais c'est vraiment un plaisir au quotidien qui est énorme. Enfin, je pourrais payer pour ça, je pense.
Bon, on arrive déjà à la fin du temps imparti. Alors bon, si vous avez envie de conclure ou de laisser passer un message.
Je veux bien faire un appel. Dinox recrute. On recherche. On va rechercher à partir du mois de septembre ou même plus tôt si c'est possible. Une personne qui pourrait prendre part dans l'entreprise pour prendre en charge toute la communication et le marketing opérationnel. Ouais. Donc, ce serait quelqu'un qui serait complètement intégré à l'équipe. Qu'on laisserait d'autonome sur son poste, qui aurait vocation à rentrer au capital de Dinox.
Bon, je pense que l'appel est passé.
Voilà, n'hésitez surtout pas, on vous envoie un mail à Olivier, si vous m'envoyez sur ma boîte, à olivier@dinox.com, vous n'hésitez pas, on répond toujours.
D'accord. Donc on rappelle donc olivier@dinox.com pour postuler. Sinon c'est www.gueulelebois.info, c'est ça pour
Absolument.
Pour toutes les informations utiles et puis bah, After Effects en pharmacie.
After Effects en pharmacie.
Et ben merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et puis bon courage.
Ah, merci.
Retour en plateau. Retour en plateau pour aborder les rubriques désormais traditionnelles d'aide à la création et aide à la réussite. La semaine dernière, tu nous décrivais les sociétés de personnes. Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser aux sociétés de capitaux.
Voilà, donc sociétés de capitaux. Donc, on va parler principalement de la SARL, de la SA et de la SAS. Donc, société à responsabilité limitée, la société anonyme et également la société par action simplifiée. Donc, les principales différences en fait, entre ces sociétés vont se faire au niveau du nombre d'associés, au montant du capital social nécessaire et minimum à la création et bien entendu au niveau du mode d'imposition. Je rappelle pour mémoire que les sociétés de capitaux possèdent leur propre personnalité juridique et par conséquent la responsabilité des associés va être limitée à leurs apports.
Alors c'est ce qu'on disait la semaine dernière, pour sortir un petit peu du jargon juridique. Si je suis dans une société de personnes, les dettes de la société c'est à moi,
c'est sur mon patrimoine personnel.
C'est sur mon patrimoine personnel, voilà tout à fait. Alors que dans une société de capitaux, si j'ai décidé d'investir 8 000 euros, eh bien je ne peux pas perdre plus que 8 000 euros.
Voilà, en dehors des fautes de gestion qui peuvent être commises. Dans ce cas-là, bien entendu, il y a la responsabilité pénale et civile du dirigeant qui est engagé.
On ne l'abordera pas ici.
Voilà. En ce qui concerne donc, les sociétés de capitaux, elles sont vraiment très faciles à transmettre, vu qu'il y a uniquement le capital, donc l'argent qui intervient. Et donc il suffit pour les associés de céder leurs actions, ou bien on va parler de parts sociales dans le cadre de la SARL. Alors pour commencer, on va trouver la SARL, la société anonyme à responsabilité limitée. Donc dans le cadre de la SARL, il faut qu'il y ait entre 1 et 100 associés. Donc lorsqu'il y a un seul associé, on va parler alors de URL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. La seule différence qu'il va y avoir entre l'EURL et la SARL, ça va être le mode d'imposition. En fait, dans l'EURL, l'associé est soumis à l'IR, donc sur sa déclaration de revenus, tandis que les associés de la SARL sont soumis à l'IS, l'impôt société. Donc néanmoins, il est possible de choisir entre l'IR et l'IS, dans la plupart des cas, si on est en URL ou en SARL. Ensuite, concernant les décisions de gestion courante, elles vont être prises par le gérant, qui a été désigné dans les statuts. En revanche, toutes les autres décisions seront prises en assemblée générale ordinaire, comme l'approbation des comptes de l'entreprise, ou extraordinaire pour toute modification des statuts. La loi va imposer des règles de majorité en nombre d'associés, également en part de capital social, pour le vote en assemblée ordinaire et extraordinaire.
Oui, et puis on va rappeler qu'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, c'est tout simplement tous les gens qui ont des parts dans la société, qui ont investi dans la société,
Exactement.
Qui votent.
Exactement. Donc, on va trouver ensuite donc, la SA, la société anonyme. Alors, il s'agit de la forme la plus utilisée par les grandes entreprises, mais aussi la forme juridique la plus encadrée en ce qui concerne l'organisation de la direction de l'entreprise et la rémunération des dirigeants. Tout ce qui marche avec les systèmes de jetons de présence, donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Il s'agit également du seul type de société qui impose un capital social minimum puisqu'il est de 37 000 euros. Alors de plus, le nombre d'associés minimum est de 7, ce qui peut sembler beaucoup lors d'une création d'entreprise. Tout ça pour dire qu'il s'agit d'un statut ado. Tout ça pour dire qu'il s'agit d'un statut adopté par les entreprises qui existent déjà et qui vont faire évoluer leur statut.
D'autant plus que la société anonyme a un seul avantage principal, c'est le fait de pouvoir faire ce qu'on appelle un appel public à l'épargne, c'est-à-dire tout simplement être coté en bourse.
Voilà. Donc ça nécessite tout de même une grosse structure. Ce qui va nous intéresser tout particulièrement en tant qu'entrepreneur, ça va être la forme simplifiée de la société anonyme, la SAS, la société par action simplifiée. Il va y avoir besoin d'un associé au minimum, on va parler de SASU, de société par action simplifiée unipersonnelle. L'avantage de la SAS, c'est qu'il n'y a pas de capital social minimum. L'organisation de l'entreprise est souple, notamment en ce qui concerne la direction. Et tout va être défini en fait, librement dans les statuts. Alors, il est seulement nécessaire de nommer un président. Donc, ça reste quand même relativement souple au niveau de la désignation des dirigeants. On va dans la SAS retrouver tous les avantages et la souplesse de l'entreprise individuelle au niveau de la gestion, vu qu'on définit librement dans les statuts, et tous les avantages des sociétés de capitaux, notamment la responsabilité limitée aux apports. Pour ma part, je vous recommande ce statut qui est au final très souple. Alors, je ne l'ai pas dit, mais tout comme la SA, la SAS est soumise à l'impôt société. C'est le seul point négatif, entre guillemets, puisque ça représente tout de même 33% des bénéfices de l'entreprise selon la loi. Mais depuis quelques années, ce taux est réduit à 15% sur la partie du bénéfice inférieure à 38 120 euros. Ce qui rend la SAS bien plus intéressante en termes d'imposition que toutes les autres sociétés.
Alors évidemment, les quelques minutes que l'on a consacrées aux différents types de sociétés ne vont pas être suffisantes pour choisir un statut. Aussi, on va vous recommander de choisir en fonction de la taille de votre projet dès sa création. Un point très important à prendre en compte, donc c'est la croissance potentielle de votre projet. Alors bien entendu, on va tous vouloir une petite croissance à la Steve Jobs et Apple, mais bon, il faut être un petit peu réaliste et donc il va falloir prévoir la croissance réelle qui sera peut-être un peu moins forte qu'un Steve Jobs pour choisir le bon statut.
Et pourquoi c'est si important de choisir son statut? Parce qu'on peut toujours modifier après, on peut passer d'un statut à l'autre, etc.
Alors, on peut bien entendu modifier son statut autant de fois que l'on le désire au cours de la vie de son entreprise. Maintenant, c'est des démarches administratives qui peuvent être très lourdes. Et il est important en fait de choisir le bon statut pour son projet parce qu'en fait, le statut va déterminer quels sont les régimes de taxes et autres impôts auxquels vous allez être soumis. Donc, ça va couvrir le régime d'imposition générale, IS ou IR, le calcul des charges sociales sur les salaires des dirigeants et associés, donc votre salaire, et toutes les modalités de reversement de la TVA. Donc c'est quand même assez important.
Ouh là là, si on part sur la TVA, sur l'impôt société, tout ça, on va en avoir pour toute la journée là, donc on en reparlera peut-être un peu plus tard, non ?
Oui, effectivement, c'est des points très importants, donc il va falloir revenir dessus longuement durant ces rubriques de création, et c'est d'ailleurs un petit peu pour ça qu'elle a été créée.
Bon, si on fait le bilan en tout cas de tout ce qu'on a dit, la SAS c'est la meilleure forme de société pour la plupart des projets.
Oui, pour la plupart des projets, oui. Incontestablement, c'est vraiment ce qu'il y aura de plus souple et qui peut assurer vraiment de 1 à autant de collaborateurs que possible. Donc c'est vraiment le meilleur statut possible.
D'accord, bah, on va passer à l'aide à la réussite. Alors la semaine dernière, on parlait des rubriques du business plan et on avait notamment vu le produit. Alors si aujourd'hui on veut parler de marketing, ça veut dire qu'il nous manque 3 P, Price, Place, Promotion.
Effectivement, les P qui manquent, en fait, si vous voulez, c'est le plan marketing. Alors, un plan marketing, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est un document qui va décrire la manière dont vous allez vous y prendre pour atteindre vos chiffres d'affaires, tout simplement. Il doit donc comprendre la description de votre politique commerciale, est-ce que vous faites du service après-vente, votre politique de prix, la stratégie de distribution de votre produit ou service et également votre communication. Donc on va retrouver en fait le complément des 4 P, donc Product, Price, Price et Promotion. En clair, un plan marketing c'est quoi? Donc ça doit indiquer ce qui doit être fait pour vendre, comment cela se fera et surtout qui va le faire concrètement. Ensuite vous avez dans la partie d'études de marché défini des profils de consommateurs. Eh bien, dans cette partie, vous devez indiquer votre stratégie, c'est-à-dire quels sont les consommateurs que vous souhaiterez conquérir en priorité et comment vous allez vous y prendre pour leur vendre votre produit. On va parler ici des moyens de communication et des avantages de votre produit à mettre en avant.
On parle d'études de marché parce qu'il faut vraiment faire une avant de se lancer. Elles ne sont pas toujours fausses, ces fameuses études de marché.
Ah, les fameuses études de marché. On va dire qu'elles sont souvent fausses. Pourtant, elles sont tout de même essentielles et je vais vous dire pourquoi. En fait, une étude de marché, ça va vous permettre de garder toujours en mémoire l'utilisation finale de votre produit ou de votre service et surtout les besoins du consommateur, des consommateurs finaux. Et donc c'est vraiment en ça que l'étude de marché reste tout de même essentielle, même si certains résultats sont légèrement faussés, biaisés par rapport à la réalité.
Bon, comme la TVA tout à l'heure, l'étude de marché c'est quand même un gros sujet, donc je te propose qu'on en reparle un petit peu plus tard de ça.
Exactement, c'est ce qui est prévu, donc on reviendra, je pense qu'on consacrera une voire deux émissions de réussite à ce point-là, qui est vraiment un point assez important. Donc pour reprendre, vous devez dire en fait à qui vous comptez vendre votre produit. Donc il est certain qu'une grand-mère retraitée de 83 ans ne va pas avoir les mêmes attentes qu'un jeune cadre dynamique qui bosse à la Défense, sans compter l'écart de revenus. Donc identifier clairement sa cible, ça va être faciliter tout le travail. Si vous connaissez à l'avance le comportement et les attentes de vos clients, ben, c'est plus de la divination, mais ça devient tout de suite très pratique de définir quels sont les points que vous devez mettre en place pour répondre à leurs attentes. Donc dans votre business plan, vous devez aussi détailler comment vous allez faire pour vendre. Les 4 P, ça va être en fait finalement qu'un moyen de vous assurer que vous avez bien pris en compte tous les aspects du projet et surtout, c'est vraiment ça le plus important, d'assurer la cohérence entre ces moyens, votre produit et le marché en lui-même.
Bon, alors on commence par quel P, entre guillemets?
Eh bien, on va commencer par le P distribution, même si ça commence pas par
le
un P
distribution.
En français. Oui. Donc, une fois vos clients ciblés, il vous sera plus facile de déterminer comment vous allez leur proposer votre produit. Est-ce que vous faites un magasin en propre? Est-ce que vous développez un réseau de franchise? Est-ce que pour une entreprise de service, vous faites juste un site web avec un système de réservation en ligne? Est-ce que vous allez vous faire référencer dans les grandes surfaces, etc.? Pour votre tactique de vente, donc tout ça c'est la tactique de vente, vous devez également détailler comment va s'organiser la chaîne entre vous et le client final. C'est-à-dire, est-ce que vous allez passer par un grossiste, un détaillant? Est-ce que vous faites de la vente directe? Si vous vendez avec votre propre force de vente, c'est-à-dire donc des commerciaux qui vont directement sur le contact du terrain, directement avec le client, eh bien, il va falloir définir leur mission et également leur zone d'action. En bref, quelle que soit la manière dont vous distribuez votre produit ou vos services, vous devez le dire et surtout vérifier si c'est cohérent avec les attentes du client potentiel.
D'accord, mais il nous manque encore deux P là, prix communication.
Il nous manque effectivement deux P, mais ce sont des P qui sont vraiment très importants, en particulier le prix. Donc on en reparlera dans les 2 semaines qui suivent, donc la semaine prochaine, le prix, et la semaine suivante, la communication.
Bon, bah parfait, on va aborder l'entrepreneur emblématique de la semaine. Décidément, si on n'était pas en ligne, on aurait des gros problèmes avec la loi E20. On a parlé d'alcool pendant toute la première moitié de l'émission, on parle de tabac maintenant avec Dino Davidoff. Donc aujourd'hui, je le disais, notre entrepreneur emblématique a lui aussi une odeur qui lui colle à la peau, celle des feuilles de tabac cubain. Je veux bien sûr parler de Dino Davidoff. Alors, avant d'aborder son histoire, je veux préciser que cette rubrique n'est pas là pour faire la promotion du cigare. Et je vais vous rappeler, comme le veut la loi, que le cigare, tout comme la cigarette, contient entre autres des goudrons et du monoxyde de carbone, et qu'en fumer nuit donc gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Alors, Dino Davidoff, lui, ce qui aurait pu nuire gravement à sa santé, voire à sa vie, c'est le fait d'être né dans une famille juive de négociants de tabac à Kiev, dans la Russie très antisémite des années 1900. Pour échapper aux actes antisémites courants, la famille Davidoff va s'exiler en Suisse en 1911, où Henri Davidoff, son père, va ouvrir une petite boutique de tabac qui deviendra ensuite la Mecque du cigare sous le contrôle de Dino, qui découvrira la richesse du cigare, de la culture du tabac, le charme et la maîtrise de la fabrication à la main dans les ateliers cubains au cours d'un voyage d'études sur le tabac qui durera 2 ans, de 1924 à 1926, en Argentine, au Brésil et à Cuba, qu'il entreprend pour reprendre la boutique de son père. Quand il rentre en Suisse, il reprend la boutique de son père comme prévu et va y introduire le cigare à côté des tabacs à pipe et des cigarettes.
Il va introduire des cigares Davidoff, je présume, en plus, non?
Non, pas encore. C'est à la fin des années 30 que Dino Davidoff va commencer à voir grand pour le marché du cigare en prenant en charge la vente et le marketing des cigares Hoyo de Monterrey fabriqués pour un autre négociant suisse de tabac qu'il renommera selon les noms de Grand Vin de Bordeaux, Château Margaux, Château Lafitte ou encore Château Mouton Rothschild. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, relativement à l'abri de la Shoah car résident en Suisse, Dino Davidoff va se concentrer sur l'invention de l'humidor, une boîte à cigares reproduisant les conditions d'humidité optimales pour la conservation du cigare et permettant donc de conserver à la maison ses cigares, une invention qui aura et a toujours aujourd'hui un énorme succès.
Alors on commence à y venir, on a la boîte, il manque plus que les cigares, c'est ça?
Oui, là on y arrive. Quand Fidel Castro et les communistes prennent le contrôle de Cuba et nationalisent beaucoup de choses, dont les fabriques de cigares, c'est là que Dino Davidoff, avec l'accord du gouvernement cubain, se lance dans la production de cigares. Il produira à Cuba des vitoles mythiques, comme le numéro 2, l'ambassadrice, ou la reprise de la série des grands crus qu'il distribuait dans les années 40. Et c'est ces cigares, d'une qualité exceptionnelle, qui, ajoutés à son charisme, vont le faire devenir l'ami des stars et des grands de ce monde, se précipitant tous dans la fameuse boutique de Genève pour se procurer ses produits, lui assurant un livre d'or bien fourni, dont vous pouvez trouver des extraits dans sa biographie, que je vous invite également à lire, Dino Davidoff, l'homme au cigare. Dino Davidoff nous quittera en 1994, à l'âge de 87 ans, mais reste dans les esprits une figure emblématique, pas seulement du cigare, mais de l'art de vivre en général. Comme il le disait lui-même, il y a dans les gestes lents, digne et mesuré du fumeur de cigares, une cérémonie qui permet de retrouver des rythmes oubliés et de rétablir une communication avec soi-même. C'est certainement la leçon à retenir de son aventure d'ailleurs. La connaissance du produit est essentielle pour réussir en affaires. Que ce soit le thé mariage frère ou les cigares Davidoff,
les fondateurs de marques d'excellence connaissent sur le bout des doigts la fabrication de leurs produits et savent tirer le meilleur de matières premières souvent insignifiantes, comme de simples feuilles de tabac qui pourraient tout simplement servir à fabriquer de simples cigarettes industrielles. Et bon, comme vous commencez à le savoir, je suis plutôt friand de citations et donc je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler celle-ci qui prouve que Dino Davidoff n'avait pas que du charisme, mais aussi beaucoup d'humour. « If your wife doesn't like the smell of your cigar, then change your wife. »
Et c'est déjà l'heure de conclure cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, bien entendu, pour toujours plus d'entrepreneuriat. On finit, comme d'habitude, par une citation. Cette semaine, elle est de Michael Aguilar, conférencier spécialisé dans la motivation, qui a d'ailleurs écrit un recueil de citations à ce sujet, qui est paru chez Duno, 300 citations pour motiver. Elle nous rappelle qu'avant de réussir, il faut avant tout travailler beaucoup, que ce soit pour développer un médicament ou pour étudier le tabac. La citation de la semaine, c'est la suivante. « Le seul métier où l'on commence au sommet, c'est celui qui consiste à creuser des trous. Le seul métier où l'on commence au sommet, c'est celui qui consiste à creuser des trous. Bonne semaine et à lundi prochain. Et c'est déjà l'heure de conclure cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, bien entendu, pour toujours plus d'entrepreneuriat. On finit, comme d'habitude, par une citation. Cette semaine, elle est de Michael Aguilar, conférencier spécialisé dans la motivation, qui a d'ailleurs écrit un recueil de citations à ce sujet, qui est paru chez Duno, 300 citations pour motiver. Elle nous rappelle qu'avant de réussir, il faut avant tout travailler beaucoup, que ce soit pour développer un médicament ou pour étudier le tabac. La citation de la semaine, c'est la suivante. Le seul métier où l'on commence au sommet, c'est celui qui consiste à creuser des trous. Le seul métier où l'on commence au sommet, c'est celui qui consiste à creuser des trous. Bonne semaine et à lundi prochain.